Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un univers assez saisissant. On s'appuie sur des extraits de La Cité sans nom de Raymond Lys. On est plongé dans un futur en ruine, une immense cité où des communautés essayent de survivre.
C'est ça.
Notre but, c'est de voir un peu comment ces sociétés éclatées fonctionnent, comment elles cohabitent ou pas, et leur rapport au passé. Et on va suivre pour ça le jeune Ordrecq.
Oui, et c'est ça qui est vraiment riche dans ce texte. C'est comment, à partir des mêmes ruines, on voit émerger des façons de vivre, des rapports à la mémoire, qui sont complètement différents. Le parcours d'Ordrecq, c'est un peu notre guide, quoi.
Alors, commençons par le commencement, le village d'Ordrecq, le village du bord du fleuve. C'est une vie rude, non?
Ah oui, très. C'est agricole. Ils élèvent des chèvres, ils arrachent les pavés de l'ancienne ville pour planter. C'est vraiment la survie au jour le jour.
Il y a une cohésion, on sent une communauté, mais c'est fragile. Le moindre truc, comme son chevreau qui se perd, ça devient grave.
Exactement. C'est une précarité constante. Et puis, il y a la menace, ou en tout cas la réputation, de ceux d'en dessous.
Ah, les métros.
Voilà, les habitants des souterrains. Vu de la surface, c'est les barbares. Sales, sauvages, mangeurs de rats, voleurs d'enfants. La peur classique de l'autre, quoi.
Mais il y a cette histoire que raconte Ribard, le pêcheur. Ça change un peu la vision.
Tout à fait. Déjà, il leur donne un nom, les métros. C'est plus juste ceux d'en dessous. Et surtout, il raconte l'histoire d'Ordaïel.
Ordaïel qui est respecté au village.
Exactement. Et qui, enfant, était un métro. Capturé, puis intégré. Ça montre que la frontière, elle n'est pas si nette. L'humanité est là, même dans ce qui paraît être la pire barbarie.
Et cette proximité, elle devient très réelle pour Ordrecq quand il se fait capturer. Brutalement.
Oui. Et là, il découvre leur monde de l'intérieur. La violence directe, avec le bouc, nez plat. Mais il voit aussi qu'il y a des bandes, des sortes de tribus.
Comme celle de Grande Boule.
C'est ça. Plus organisées peut-être, mais tout aussi cruelles. Il y a même des luttes internes violentes, comme le combat à mort qu'il observe.
Et puis ce rituel bizarre, avec l'arrache-gueule.
Qui est aussi le nom de leur alcool d'ailleurs.
Voilà. C'est à la fois une boisson et un rite de passage raté pour Ordrecq. Ça montre une société complexe finalement, mais basée sur la force. Son évasion est mémorable aussi. Il est échangé contre cet alcool. Il fuit un lieu appelé le Champ des Morts.
Oui, sinistre endroit.
Et il est sauvé in extremis par la foudre. On ne sait pas trop ce que c'est. Une personne, une arme.
Ça reste mystérieux. Associé au tonnerre, à l'éclair, une technologie oubliée? Difficile à dire.
Et juste après ça, il tombe sur un monde radicalement différent.
Ceux d'en haut.
Stella et sa mère.
Exactement. Le contraste est total. Fini la crasse des souterrains. Là, c'est les toits, la propreté, des jardins suspendus, les cages à soleil.
Et surtout, un rapport au passé différent. Elle s'intéresse au livre, les grandes feuilles des ancêtres. Il y a même ce vieil homme dans sa tour de verre qui passe son temps à les étudier. C'est une société qui cherche autre chose que la survie brute.
Une quête de savoir, oui. Même si c'est un savoir fragmentaire, difficile d'accès. Et il y a ce secret de Stella.
Ah oui, la maison préservée, pleine de livres. Mais aussi de squelettes. Ça laisse rêveur sur ce qui s'est passé.
C'est une autre facette de ce monde éclaté. Et on en découvre encore une autre avec le récit du voyageur borgne.
Lui, il est allé voir ailleurs, au-delà de la cité, sur la mer.
Oui, il parle de l'île verte. Et là encore, une société particulière.
Très étrange, oui. Une sorte de forteresse habitée par des frères en capuchon, noir et gris.
Et leur obsession, c'est de collecter les books, les livres. Mais ils ne savent pas les lire.
C'est fou, ça. Préserver l'objet sans le contenu. Ça me fait penser à ce Colac, mentionné aussi, qui, lui, collectionne des galettes, des disques, sans doute.
C'est une autre forme de rapport au passé. La fétichisation. Le savoir devient une relique, sacrée, mais vide de sens pour eux. Et leur organisation sociale est déroutante.
Le partage des femmes entre les frères, ce rituel de l'enclouer. On ne sait pas trop ce que c'est, un sacrifice?
Une image.
C'est très opaque.
Le voyageur finit par s'enfuir d'ailleurs, avec une femme, Rumelina.
Toutes les expériences, ça change Ordrecq forcément. Quand il revient au village, les métros attaquent, menés par Le Bouc et Grande Boule.
Et là, on voit la différence. Ordrecq n'est plus juste gamin qui subit. Il applique ce qu'il a vu, ce qu'il a appris. Il organise la défense.
Il utilise le terrain. Il pense stratégie.
C'est ça. Il a une autre approche de la survie. Bon, les combats sont quand même terribles, il y a des pertes.
Mais il y a des interventions un peu providentielles. La foudre qui frappe encore. Et puis l'arrivée de Taman et Ordaël.
L'ancien Métroc.
Sur ce long nez. Une sorte de mammouth, on imagine.
Une créature du passé, oui.
Et ça renverse la situation. Alliance improbable.
La paix revient. Mais pour Ordrek, quelque chose a changé. Et il y a cette découverte finale. Le livre confié à Ribar.
Il reconnaît des lettres. P-A-R-I-S.
Paris. La cité, son nom aurait donc un nom.
Et là, sa décision est prise. Il ne veut plus juste survivre. Il veut comprendre. Il veut aller voir le vieillard de la tour, celui qui lit les grandes feuilles.
C'est une belle conclusion pour son parcours. Et ça résume bien ce qu'on a vu. D'un côté, la survie pure et dure, presque animale, dans les souterrains, ou même au village.
De l'autre, cette quête de savoir sur les toits, ou cette préservation un peu absurde sur l'île.
Chaque groupe bricole sa réponse face à l'effondrement, avec les bribes du passé qu'il a sous la main. L'ignorance côtoie la vénération aveugle et la tentative de compréhension.
C'est ça. Et ça pose une question, finalement.
Oui, une question qui nous dépasse peut-être un peu. Quand tout est fragmenté, quand le passé n'est qu'un écho lointain et mal compris, comment est-ce que notre rapport à ces fragments, qu'on les ignore, qu'on les sacralise sans les comprendre ou qu'on essaye de les déchiffrer, comment est-ce que ça façonne non seulement nos chances de survie, mais aussi la nature même de ce qui pourrait renaître?